Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Biotine, l'actualité scientifique pendant une heure sur Graphite, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet et le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, bien sûr dans l'Aisne-Loise, la Somme. Vous pouvez suivre toute l'actualité de Graphite sur la page Facebook, c'est là que vous aurez le maximum d'informations sur l'actualité de votre radio curieuse. Et puis, eh bien, nous sommes aujourd'hui le 2 octobre et j'annonce déjà la semaine prochaine une émission spéciale de la Fête de la Science en direct de l'Université de Technologie de Compiègne. Nous serons en direct entre 14h et 16h, donc ça sera un horaire un peu particulier. Mais entre 14h et 16h, samedi prochain, émission en direct où nous allons accueillir pas mal d'invités pour découvrir un petit peu l'actualité de la recherche au sein de l'UTC et au sein de l'ESCOM aussi, l'École supérieure de chimie organique et minérale. Donc émission spéciale en direct, ça fait plaisir de retrouver cette émission que nous ferons la semaine prochaine sur l'antenne de Graphite. Aujourd'hui, 2 octobre, donc, pour cette émission. Alors, l'éphéméride est assez plan-plan. Hein. Le 2 octobre 1955, c'est la fin du service de l'ENIAC. En fait, c'est le premier ordinateur électronique programmable pour des usages multiples. En 1955, quand même, c'était la fin du programme. Ça veut dire que ça démarrait avant et c'est quand même assez intéressant. En 2017, donc il y a 4 ans, c'était l'attribution du prix Nobel de médecine pour 3 Américains qui avaient découvert les mécanismes moléculaires qui règlent le rythme circadien, donc le jour, la nuit, et tout ça, l'influence qu'il y a sur notre corps, bien sûr. Et c'était donc l'attribution du prix Nobel de médecine à Jeffrey Hall, Michael Rushback et Michael Young en 2017. Naissance, le 2 octobre 1852 en Écosse de William Ramsay. Ah, Ramsay, ça nous dit peut-être quelque chose. Il a été chimiste britannique et notamment lauréat du prix Nobel de chimie en 1904. Ses principales découvertes furent faites en chimie inorganique. Alors la chimie inorganique, c'est en fait la chimie minérale. Et décès le 2 octobre 1804 de Nicolas Cugnot, ingénieur militaire français. En fait, il est connu pour avoir conçu et réalisé dans les années 1770 à peu près le premier véhicule automobile qui était jamais construit en Europe. Il s'agit d'un fardier d'artillerie avec une machine à vapeur de 2 cylindres. Et ce modèle est conservé en parfait état au Musée des Arts et Métiers à Paris. C'est un musée que je vous conseille de visiter également. Le Musée des Arts et Métiers, vous verrez plein de technologies, pas mal de machines, d'outils qui vous permettent un petit peu de mieux comprendre l'histoire des sciences, l'histoire des technologies. C'est un musée magnifique, le Musée des Arts et Métiers. Et donc, on peut voir ce fardier d'artillerie qui est donc le premier véhicule automobile jamais construit en Europe par Cugnot, dont on célèbre aujourd'hui la mort le 2 octobre 1804 à Paris. Pas mal d'actualités qu'on va évoquer encore dans cette émission aujourd'hui parce que la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de tout évoquer. Je voulais notamment revenir sur les futures technologies de l'exploration spatiale qui ont été dévoilées notamment par les ingénieurs du JPL, c'est le Jet Propulsion Laboratory, donc c'est en fait une branche de la NASA qui se consacre en fait à la recherche technologique spatiale et ces ingénieurs ont présenté plusieurs innovations au cours d'un colloque qui a eu lieu la semaine dernière et qui a permis à plusieurs organismes de dévoiler des projets financés donc par la NASA et ce laboratoire JPL y a présenté publiquement plusieurs concepts. Et chaque concept est une véritable avancée technologique pour l'exploration spatiale, que ce soit l'exploration de la Lune ou que ce soit l'exploration de Mars. Alors, le premier des projets qui est conduit notamment sous la supervision du docteur Ethan Shaler, eh bien, ce projet consiste à créer des micro-robots qu'on pourra contrôler par ultrasons et ils seront destinés à découvrir des planètes océaniques. Notamment, il y a un satellite de Saturne qui s'appelle Encelade et qu'on pourra un petit peu mieux explorer grâce à ce micro-robot. Il y a une seconde innovation qui s'appelle Reach Boat, c'est un espèce de prototype de rover qui est équipé d'un bras et qui est nécessaire à l'exploration souterraine de Mars. Vous savez qu'on fait pas mal de recherches d'échantillons, mais là, du coup, on est plutôt sur la surface de Mars. Et là, on a un prototype qui a été présenté pour explorer le souterrain. Et cet appareil qui a été développé par le professeur Marco Pavone pourrait donc creuser et atteindre des points assez intéressants et assez profonds. Et donc, il y a d'autres aussi prototypes qui ont été présentés. Il y a pas mal de choses qui permettent justement un petit peu de se projeter dans l'exploration spatiale, parce qu'il va falloir maintenant innover, tout simplement. Alors, on innove bien sûr régulièrement, mais là, le fait d'avoir ce colloque spécifique il y a une semaine, ça a permis de pouvoir se projeter et d'avoir une meilleure vision de ce qui va attendre les futurs spationautes. Il y a de nombreux organismes, de nombreuses compagnies qui présentent un petit peu tout leur concept, tout leur prototype ou l'état d'avancée de leur recherche lors de ce colloque. Et donc, le laboratoire JPL s'est un petit peu fait remarquer parce qu'on se rend compte que les technologies qui ont été présentées, elles sont assez remarquables, justement. C'est justement un gain de popularité qui permet ensuite de pouvoir décrocher des contrats, ainsi de suite. Vous savez, hein, toujours derrière, il y a quand même aussi souvent une question d'argent, bien évidemment, parce que ça coûte cher de pouvoir développer toutes ces technologies. Et on a donc pas mal de découvertes assez intéressantes qui permettent justement de se dire que l'exploration de la Lune, l'exploration de Mars va dans les prochaines années, quand je dis prochaines années, ça va être déjà dès cette décennie de toute façon, être assez éloquente. Et donc du coup, grâce à ce genre de colloque, eh bien, c'est un petit peu les seuls moments où on a une présentation en bonne et due forme de l'état actuel des technologies et des prototypes qui sont attendus. Il y a un autre concept qui a été révélé un peu en aveu première, qui était un peu inattendue et qui est aussi assez originale. L'idée, c'est d'implanter des champignons sur de la matière qui va provenir d'astéroïdes. Et l'idée, c'est de pouvoir détruire les composants toxiques et de créer de l'engrais qu'on pourrait utiliser un petit peu dans des missions à long terme vers la Lune ou vers Mars. C'est-à-dire que le fait d'aller sur la Lune ou du fait d'aller sur Mars, c'est déjà une chose. Le fait d'y rester longtemps, ça implique énormément de contraintes qu'il va falloir résoudre. Et c'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus partir avec sa caravane remplie de plein de matériel qui va nous permettre de vivre pendant une certaine durée. Donc il faut trouver des solutions, des astuces, des technologies pour nous permettre de pouvoir rester longtemps justement sur ces planètes et de pouvoir les coloniser, notamment Mars. C'est un petit peu, on le sait, l'un des objectifs que l'on commencera à découvrir dans la décennie 2030, voire la décennie 2040, bien sûr. Mais voilà, grâce à ce colloque, on en sait un petit peu plus. C'est toujours intéressant, c'est toujours passionnant. Biotine, émission d'actualité scientifique, bien sûr. Émission également de musique. On écoute Grizzly Bear sur l'antenne de Graphite. Oh. Grizzly Bears avec Two Weeks sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine, l'émission d'actualité scientifique qui nous apprend pas mal de choses assez intéressantes, assez prometteuses, qui font rêver et puis aussi qui fait quand même un constat de plus en plus implacable sur la situation, notamment liée au réchauffement climatique. Toutes les semaines, on en parle parce que toutes les semaines, on a des informations. Et notamment, ces phrases assez percutantes. Les nations riches doivent faire beaucoup plus vite. Ou alors, la crise environnementale exige une réponse d'urgence similaire à celle de la Covid-19. Ce sont quelques phrases percutantes de cet éditorial qui a été publié début septembre dans plus de 200 revues de santé à travers le monde. Et à l'époque, début septembre, c'était le Congrès mondial pour la nature qui battait son plein à Marseille. Et cette publication qui a été relayée par des revues de renom estime que si les récents objectifs de réduction des émissions et de préservation de la biodiversité sont les bienvenus, eh bien, on constate qu'ils ne sont toutefois pas suffisants et doivent encore être assortis de plans crédibles à court et à long terme. Et la conclusion de cet éditorial, c'est, je cite, « En tant que rédacteur en chef de revue de santé, nous appelons les gouvernements et les autres dirigeants à agir en faisant de 2021 l'année où le monde changera enfin de cap. » Ils ont choisi de diffuser cette publication une semaine avant l'Assemblée de l'ONU et notamment en amont de la conférence sur le climat, la COP26, qui se tiendra à Glasgow, c'est en novembre prochain. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir dans cette émission. Et donc, depuis des décennies, les professionnels de la santé et les revues spécialisées mettent en garde contre les effets graves et croissants du changement climatique et de la destruction de la nature sur la santé. C'est ce que souligne bien sûr cet article, qui rappelle le rôle crucial des gouvernements pour transformer nos sociétés et leur structure économique. Alors, par exemple, en soutenant la refonte des systèmes de transport, de la production, de la distribution de nourriture ou bien sûr aussi de nos systèmes de santé. Alors, selon les auteurs de l'article, ces politiques impliqueraient des investissements considérables, mais nécessaires, car ils auront, je cite, « d'énormes retombées positives sur la santé et l'économie, notamment des emplois de qualité, une réduction de la pollution atmosphérique, une augmentation de l'activité physique et une amélioration du logement et de l'alimentation. Les professionnels de la santé ont été mis en première ligne de la crise de la Covid-19 et ils sont unis pour avertir que si l'on dépasse la limite de ces fameux 1,5 degré et que l'on autorise la poursuite de la destruction de la nature, la prochaine crise sera bien plus meurtrière. Les nations les plus riches doivent agir plus rapidement et faire davantage pour soutenir le pays, les pays qui souffrent déjà de la hausse des températures, lit-on. Alors, des températures extrêmes, de la pollution, ce sont donc les effets du changement climatique qui ont des conséquences mortelles sur la santé. C'est d'autant plus préoccupant que ça touche en premier lieu les personnes fragiles et en situation de précarité. Et notamment, il y a un rapport de l'UNICEF qui a été publié en août dernier qui explique qu'un milliard d'enfants dans le monde sont confrontés simultanément à 3 ou 4 conséquences de la crise climatique. Ça peut être des pénuries d'eau, pollution atmosphérique, canicule. Et donc, c'est un véritable cri d'alarme de ces 200 revues de médecine qui exhortent les gouvernements à agir rapidement, efficacement, tout de suite, contre le réchauffement climatique. Voilà, c'était un édito qui avait été assez bien répondu, mais justement, est-ce qu'il va y avoir une réponse? C'est un petit peu la question, et on verra ça, parce qu'on en parle quand même très très souvent dans cette émission, quasiment toutes les semaines, et c'est bien sûr nécessaire. Et on apprend en même temps que l'histoire pourrait peut-être en train de s'écrire du côté de l'Islande, parce qu'il y a quelques jours, la plus grande usine au monde de captage du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et l'idée ensuite de pouvoir le capter et de pouvoir le stocker de façon en souterrain, eh bien cette usine a été mise en service. C'est une start-up suisse qui s'appelle Climeworks et une société islandaise qui s'appelle Carbfix qui sont à l'origine de tout ça et qui annoncent une capacité d'extraction de 4000 tonnes de CO2 par an. C'est beaucoup quand même, hein, lorsqu'on sait que la quinzaine des autres usines qui existent déjà, eh bien quelque part elles n'en font guère plus, alors qu'elle toute seule elle en fait 4000. Mais ça reste peu quand même au regard des émissions mondiales de CO2 qu'on estime à plus de 30 milliards de tonnes en 2020. 30 milliards de tonnes de CO2 produits, et là, cette usine, elle va essayer d'en capter 4 000. 4 000 sur 30 milliards, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est toujours ça. Certains estiment toutefois l'effort nécessaire pour essayer, bien sûr, de limiter ce réchauffement climatique anthropique, donc causé par l'homme. Il y a une usine qui s'appelle Orca, qui aspire donc du CO2 directement de notre atmosphère, au cœur de 8 grands conteneurs et à grand renfort de ventilateurs qui vont aspirer l'air dans un collecteur qui est équipé de filtres. Et une fois ce collecteur saturé, eh bien la température est augmentée pour libérer et isoler un CO2 qui est très concentré, qu'on va mélanger avec de l'eau, qu'on va injecter dans le sous-sol à environ 1 km de profondeur. Et il finira tout ça par se transformer en roche. Alors, le système, il est alimenté par une énergie renouvelable, parce que bien sûr, il y a pas mal d'énergie à utiliser pour fonctionner. Notamment une énergie renouvelable par une centrale géothermique située à proximité. Alors la géothermie, c'est de pouvoir utiliser la chaleur naturelle de la Terre pour pouvoir faire fonctionner des turbines et produire l'électricité. Donc c'est une énergie renouvelable et qui n'est pas présente partout. Mais là, justement, on a pu, en Islande, avoir cette centrale géothermique à côté de cette usine. Mais il y a aussi une question de prix, bien sûr. Hein. C'est un défaut assez important que les concepteurs espèrent amoindrir avec son industrialisation à grande échelle. Il y a de plus en plus d'entreprises et même de particuliers qui cherchent à essayer de réduire leur empreinte carbone. Donc, ça, c'est une piste assez intéressante. Il y a un autre projet du même type d'ailleurs qui existe, c'est celui de la société pétrolière américaine occidentale. Elle développe une grande installation de captage direct du CO2 et destinée à extraire cette fois, nous dit-on, 1 million de tonnes de gaz à effet de serre par an. Donc on passe de 9 000 à 1 million, c'est pas mal, il en reste encore 30 milliards bien sûr, mais c'est toujours ça de prix. C'est prévu notamment dans la région du Texas, où ça pourra se mettre en place. Donc voilà, on va essayer de construire ces usines assez particulières qui vont capter le CO2. Mais en fait, on se rend compte qu'on en produit plus qu'on en capte et l'équilibre est totalement instable, et même pas instable, il est carrément déséquilibré, quoi. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans une situation très, très dangereuse. Et toutes les semaines, dans cette émission, on en parle. Et toutes les semaines, on a des informations qui confirment justement cette tendance catastrophique. Et donc là, on a quelques pistes épisodiques, anecdotiques peut-être, mais en tout cas, qui peut être assez prometteuses, bien sûr. Donc, on reviendra bien régulièrement dans cette émission bien, sur ce sujet-là. Et on essaiera de suivre la COP29 à Glasgow, qui est donc la COP26 qui aura lieu à Glasgow en novembre. On suivra de près, bien sûr, les travaux qui seront rendus lors de cette COP26. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite. Tiens, un petit Noir Désir, ça va nous faire du bien.
Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun Concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va, sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra si au perché. Aucun vapeur ne me fera fondre. Des escalators aux chariots ailés, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai allongé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus le verger. Et délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun landau ne me laissera bouche bée.
aucun walala ne vaut le détour. Aucun astronef ne s'y attarde. Aucun navire n'y va. Sinon, toi. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers. Et les laissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va. Ses méandres, je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus le verger, délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté.
Aucun Express Noir Désir sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Vous avez bien raison parce que vous avez envie de vous tenir au courant de l'actualité scientifique qui finalement n'est pas folichonne hein, parce qu'on parlait quand même de ce réchauffement climatique et il y a plusieurs articles qui illustrent les conséquences assez importantes de ce réchauffement climatique. Il y a cet article de Futura Science qui revient sur les glaciers des Pyrénées où on rappelle que ce sont les plus grands glaciers du sud d'Europe, mais en ces temps justement de réchauffement climatique, eh bien leur place n'est pas des plus enviables. Il y a des chercheurs de l'Institut Pyrénéen d'écologie qui le confirment aujourd'hui parce que ces glaciers sont menacés et cet article annonce que ces glaciers pourraient disparaître dans les 20 ans à venir. Les chercheurs ont étudié l'évolution de l'étendue de la couverture glaciaire et de son épaisseur ces 10 dernières années. Ils rapportent que la superficie totale des glaciers des Pyrénées a diminué de près d'un quart sur la période et son épaisseur s'est affinée de plus de 6 mètres en moyenne, ce qui est quand même énorme. Les chercheurs soulignent aussi que les Pyrénées ont déjà vu 3 de leurs glaciers disparaître depuis 10 ans. Alors, on rappelle que dans la région, la hausse globale de la température depuis le début de l'ère industrielle est de plus d'un degré et demi. Et les images haute résolution qui sont produites par les satellites, tout autant que par les explorations qu'on peut faire sur le terrain ou alors essayer de survoler les zones par des drones, eh bien, tout ça montre que le phénomène de retrait des glaciers se poursuit dans les Pyrénées à une vitesse qui ne ralentit pas, notamment depuis les années 80. Les chercheurs notent par ailleurs une plus grande variabilité du phénomène sur les glaciers les plus modestes. Ils signalent que certaines zones ont connu des pertes d'épaisseur de glace qui pouvaient atteindre 20 mètres. Et le plus inquiétant étant sans doute que les experts estiment qu'il s'agit là d'un avertissement de ce qui pourrait bientôt se produire dans d'autres montagnes, notamment les Alpes. Mais voilà, ces chercheurs de l'Institut Pyrénéen d'écologie annonce donc peut-être que les glaciers des Pyrénées n'en ont plus que pour 20 ans. Donc là encore une illustration assez supplémentaire. Autre chose, toujours dans ce même contexte et qui est assez intéressant, c'est qu'on a un petit peu on entend très souvent le fait qu'il y a une honte qu'on devrait avoir, en tout cas ceux qui prennent l'avion. Ce sont un peu les défenseurs de l'environnement qui ont commencé à diffuser ce genre de propos. Sauf que maintenant, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on pourrait aussi parler de honte quand on surfe sur Internet ou quand on regarde un film sur Netflix ? Il y a une étude qui a été publiée dans la revue Patterns il y a quelques jours et qui explique que les téléphones, les ordinateurs, les téléviseurs, toutes ces, tout ce qui génère des données, eh bien, tout cela, ça implique la production de 2 à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si on en est à 4%, on rappelle dans l'article que l'aviation civile, c'est 2,5. C'est-à-dire que quelque part, le secteur du numérique génère plus de gaz à effet de serre que l'aviation. Les chercheurs, en fait, ils ont procédé à une analyse de la littérature scientifique sur le sujet. Ils ont essayé de réviser les chiffres à la hausse en incluant notamment les émissions totales liées au cycle de vie, c'est-à-dire que il y a l'utilisation du portable, mais aussi sa fabrication, les matières premières, les transports, l'usage, bien sûr, la fin de vie avec le recyclage, la mise en la décharge. Et ils ont également pris en compte les nouveaux usages liés au numérique, notamment l'intelligence artificielle. Tout ça génère des données assez importantes. Et ces nouveaux usages sont particulièrement énergivores, c'est-à-dire que ça consomme énormément d'énergie. L'entraînement d'un algorithme d'apprentissage automatique génère ainsi l'équivalent des émissions de 5 voitures durant toute leur durée de vie. Donc c'est des illustrations intéressantes, c'est-à-dire que le résultat de tout ça, c'est que le secteur du numérique génère entre à peu près environ 2 gigatonnes d'équivalent CO2 par an. Ce qui veut dire, en fait, avec tous ces chiffres, pour qu'on puisse bien comprendre, on a une hausse de 40% par rapport aux précédentes estimations qui existaient. Et donc, entre 2002 et 2012, les émissions du secteur de la communication avaient bondi de 40%. On est au début des années 2000, hein, 2002-2012, hein, donc la première décennie du 21e siècle. Les émissions du secteur progressent ainsi pratiquement 2 fois plus vite que les émissions globales. C'est ce qu'alertent justement les auteurs de cet article. Et en imaginant que les émissions du secteur numérique restent stables d'ici 2050, en imaginant, parce qu'on a bien l'impression qu'on n'y arrivera pas, eh bien, on pourrait atteindre le chiffre de 35% des émissions globales d'ici là. C'est-à-dire que plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre proviendraient du secteur du numérique d'ici 2050. La consommation électrique domestique, elle a quand même diminué durant les 20 dernières années, grâce notamment aux progrès qui existent de la part des fabricants en matière énergétique. Mais cette efficacité accrue, elle produit un espèce d'effet rebond, parce que les gens ont tendance à avoir un usage plus intensif quand leurs appareils consomment moins. Oui, parce qu'il y a quelques années, les batteries elles se déchargeaient rapidement, donc on utilisait moins nos téléphones, par exemple. Là, on a des batteries beaucoup plus performantes, donc on peut, du coup, consommer plus ces outils connectés qui génèrent des données. Donc, quelque part, le fait d'être performant d'un côté entraîne une surconsommation. Une consommation, justement, et des usages des particuliers qui représentent environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Les produits grand public sont utilisés moins fréquemment que les centres de données qui tournent, eux, en continu, bien sûr, mais qui sont aussi remplacés plus souvent. En fait, on estime à peu près que la détention moyenne d'un téléphone mobile, c'est à peu près 2 ans. Et du coup, il y a une consommation qui... Avant, on gardait nos téléphones plus longtemps. Là, on les change assez régulièrement. Il y a des écrans qui ont tendance à s'agrandir. Et donc, il y a une croissance exponentielle des émissions et ainsi de suite. Donc, du coup, c'est une espèce d'emballement qui se met en place. Et pour rester un petit peu dans les clous de la COP21, les accords de Paris qui prévoyaient de limiter le réchauffement à 1,5 degré, eh bien, il faudrait que le secteur du numérique réduise son empreinte carbone de près de moitié d'ici 2030, de près de 90% d'ici 2050. C'est totalement utopique, on sait qu'on n'y arrivera pas. En tout cas, c'est ce qu'annoncent les experts avec différents calculs. Alors, c'est difficile à imaginer, on le sait très bien, avec l'explosion des usages et du nombre d'appareils en circulation. Et d'ailleurs, les auteurs, ils sont assez pessimistes, hein, sur l'avenir. Ils prédisent une croissance continue des émissions de gaz à effet de serre dans les prochaines décennies. Et une partie de la consommation pourrait toutefois être assurée par des énergies vertes qui, justement, réduiraient la quantité de gaz à effet de serre émise. Le problème, c'est que les énergies vertes, pour l'instant, sont encore minoritaires et l'utilisation va de façon exponentielle au niveau de l'utilisation de tous ces appareils. Donc, à un moment, l'équation ne tient plus et ce secteur du numérique devient de plus en plus producteur et générateur de gaz à effet de serre. C'est une prise de conscience qu'il faut avoir, parce que quelque part, on a toujours l'idée, bien sûr, des transports, l'idée, ce qui est vrai, hein, bien sûr, mais du coup, le secteur du numérique, on n'avait pas encore nécessairement eu conscience de cela, eh bien, ça commence à se distiller comme ça de façon insidieuse, parce que il va falloir prendre conscience de ça également, et peut-être que maintenant on nous pointera du doigt quand on regardera une émission genre Netflix. Voilà. On va changer de sujet juste après un titre. On va écouter Pavement sur l'antenne de Graphite. Et puis on va parler, je vous l'avais promis la semaine dernière, un truc un peu plus léger. Ça va nous faire du bien parce qu'on n'en peut plus de ces informations qui nous rendent pessimistes sur l'avenir. On va parler des IG Nobel, du sexe, de la congestion nasale, du rhinocéros, des poils de barbe. C'est un beau programme juste après Pavement sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. C'était pas Pavement, hein, c'était J. Drew avec Always On Your Mind sur l'antenne de Graphite. On écoutera Pavement tout à l'heure. Vous écoutez Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé, parce que vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts de l'émission. Profitez-en. On va parler des IG Nobel. C'est une espèce de parodie bon enfant des prix Nobel. Et ces IG Nobel honorent les études scientifiques qui font d'abord rire les gens, puis qui les font un peu réfléchir. Alors, tous les ans, il y a des gagnants. Et tous les ans, on en parle dans cette émission, déjà parce que ça donne une respiration assez sympa, bien sûr. Et ça nous permet aussi... je sais pas, il y a des choses qui sont assez intéressantes, pas toutes, mais certaines débouchent parfois sur des travaux de recherche beaucoup plus intéressants que ce côté un peu anecdotique et un peu farfelu au départ. Alors, on a plusieurs IG Nobel, des Ig Nobel, on peut peut-être dire ça comme ça d'ailleurs, plusieurs catégories, comme les vrais prix Nobel. Par exemple, en biologie, on a récompensé Suzanne Scholtz, qui est une chercheuse suédoise et qui a travaillé sur les variations de ronronnement, de gazouillis, de bavardage, de roulement, de murmure, de miaulement, de gémissement, de grincement. Bref, de tous les modes de communication entre le chat et l'humain. Et le chat, on le sait, c'est une source inépuisable d'inspiration scientifique. Il y a 5 études sur les vocalises émises par les chats qui semblent être un peu la passion de Suzanne Scholtz, et elle a donc constaté qu'un murmure et un miaulement combinés sont l'énoncé le plus courant du chaton, tandis que regarder les oiseaux à travers une fenêtre suscitera plutôt des bavardages ou des gazouillis prolongés. Voilà, elle a travaillé sur ça. Alors, bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant. Elle a eu donc l'IG Nobel de biologie. En médecine, eh bien, il y a plusieurs chercheurs qui ont été récompensés. On va partir du point de départ. En 1897, il y a un ORL, un otorhino-laryngologiste allemand qui s'appelait William Fleiss. Et en 1897, il avait énoncé qu'il existait un lien physiologique entre le nez et les parties génitales. Il faut savoir que c'était un ami proche et même le confident de Freud, donc peut-être un lien, mais bon. Et des chercheurs sont partis de ce postulat qui n'avait jamais pu être vérifié scientifiquement, des chercheurs allemands, turcs, britanniques, et ils se sont demandé, c'est vrai qu'on se pose la question, ils se sont demandé si le sexe pouvait favoriser la décongestion nasale. C'est d'ailleurs un petit peu essayer d'améliorer un petit peu l'effet nez bouché. Et donc, du coup, ils ont, sans problème, bien sûr, trouvé 18 couples volontaires. Et cette équipe de chercheurs a mesuré le débit respiratoire de ces couples avant et après l'orgasme. Et en fait, ils se rendent compte que l'effet est nettement positif. Ça dure moins longtemps qu'un spray nasal, d'après les auteurs de cette étude. Mais effectivement, il y a bien un lien et ils ont donc démontré que les orgasmes sexuels peuvent être aussi efficaces que les médicaments décongestionnants pour améliorer ce fameux nez bouché. Ils reçoivent donc l'IG Nobel de médecine. C'est vrai, c'est glorieux, bravo à vous. En écologie, on a, et on le sait, les gens qui ont malheureusement un petit peu cette mauvaise habitude de jeter des chewing-gums usagés un peu partout, en particulier sur les trottoirs, et cette pratique qui est bien sûr un fléau pour les services de nettoyage, eh bien, elle a permis à une équipe de scientifiques espagnols et iraniens d'étudier les bactéries qui sont présentes dans les chewing-gums de 5 pays différents et de surveiller leur évolution au fil du temps. Alors, vraiment, il n'y en a que ça à faire. Et en tout cas, ces chercheurs ont constaté que les bactéries buccales initialement présentes dans la gomme cèdent peu à peu la place aux bactéries présentes dans l'environnement, ce qui va donc permettre la dégradation du chewing-gum. Et ils reçoivent donc pour cela l'IG Nobel d'écologie. En chimie, excusez-moi, un petit chat dans la gorge, qu'elle le dire, ça va peut-être plaire à Suzanne Scholtz, tout ça. En chimie, il y a Jörg Weicker et ses collègues qui ont publié une étude intrigante sur les composés organiques volatiles. Donc c'est un petit peu ces composés chimiques que l'on retrouve dans l'air et qui ont été émis par les spectateurs en réponse à des scènes spécifiques d'un film donné. En fait, les chercheurs, ils ont notamment constaté que lorsque le rythme cardiaque des spectateurs augmente, eh bien, on va pouvoir détecter une hausse des émissions de dioxyde de carbone, dont certaines correspondent à un type de scène spécifique. Et cet effet est particulièrement vrai quand c'est une scène de suspense ou quand c'est une scène plutôt comique. Et donc, pour ces deux genres de scènes-là, eh bien, les spectateurs vont émettre plus de dioxyde de carbone que si c'est une autre scène. À quoi ça sert, j'en sais rien. En tout cas, ils reçoivent l'IG Nobel de chimie. En économie, bien, c'est la France qui est récompensée. Hein, cocorico, hein, l'IG Nobel d'économie est allé cette année à un chercheur de la Business School de Montpellier pour ses travaux sur la corruption. Alors, en fait, il s'est demandé, il s'appelle Pavlo Bavlatsky, il s'est demandé si l'indice de masse corporelle d'un dirigeant pouvait être lié à la corruption dans un pays donné. Donc il a sélectionné à peu près 300 visages de dirigeants politiques dans 15 États différents, des États où la corruption est perçue comme très importante pour son étude. Et résultat, on observe en effet une forte corrélation entre les deux indices, c'est-à-dire que par exemple, les Pays-Baltes et la Géorgie sont jugés les moins corrompus et les dirigeants politiques de ces pays-là ont un indice de masse corporelle le plus faible. Voilà, donc on en déduit ça et il reçoit l'IG Nobel d'économie pour ça. Mais pourquoi pas, après tout, on peut, il n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas cela, mais bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on verra. Dans les transports, un rhinocéros est-il moins stressé Un rhinocéros est-il moins stressé quand il est transporté la tête en bas ou à l'horizontale lors d'un transport par hélicoptère? C'est une question assez cruciale, il faut quand même le savoir, et qui a été analysée par Robin Radcliffe et son équipe dans une étude de cette année et qui a notamment analysé les effets de la posture et des sédatifs administrés à 12 rhinocéros noirs lors de leur transfert. Et donc les chercheurs, ils avaient un petit peu émis l'hypothèse que la posture à l'envers des animaux pourrait entraîner des effets plus nocifs qu'une position un petit peu horizontale, mais les résultats qu'ils ont eus n'ont pas réussi à le confirmer, donc ils vont réessayer, quoi. Bon, okay. C'est l'IG Nobel des transports. Et enfin, on terminera avec l'IG Nobel de la paix, et ça, c'est assez intéressant. C'est qu'on considère qu'une barbe bien épaisse a été perçue comme un signe de virilité depuis très longtemps. Eh bien, il y a Ethan Bezeris et ses collègues qui se sont demandé si la barbe pouvait aussi remplir d'autres fonctions. Et ils ont décidé de tester si les poils de barbe épais pouvaient offrir une bonne protection contre les traumatismes qui vont résulter de frappes lors d'une bagarre. Et ils ont pu constater que les échantillons de peau avec des poils qui amortissaient en effet les coups de 30%, eh bien, ça explique que les hommes avec une masculinité et une agressivité élevées ont une barbe épaisse. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de lien qui se fait entre une barbe épaisse et le fait que tu vas recevoir des coups. Donc, tu es plutôt bagarreur. C'est une équipe qui... on n'a pas le pays, tiens, pardon. Mais en tout cas, ils ont reçu l'IG Nobel de la paix. Ils peuvent, pour avoir testé cette hypothèse selon laquelle les hommes ont développé la barbe pour se protéger des coups de poing au visage. C'est ça, les IG Nobel. Bon, c'est un petit peu anecdotique. Moi, ça fait du bien un petit peu parce que on a quand même au niveau de l'actualité scientifique des choses assez, assez inquiétantes. Je rappelle que la semaine prochaine, c'est la fête de la science. On fera une émission en direct entre 14h et 16h sur l'antenne de Graphite. Nous serons au cœur de l'Université Technologie de Compiègne. On accueillera plein de scientifiques, plein de chercheurs, plein d'étudiants sur le plateau mobile qu'on aura avec Graphite. Samedi prochain, 14h. N'oubliez pas, d'ici là, on écoute, je l'avais promis, Pavement sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Darling, don't you go and cut your hair. Do you think it's gonna make him change?
I'm just a boy with a new haircut,
and that's a pretty nice haircut.
Charge it like a puzzle.
Drunk.
no big hair. Songs mean a lot when songs are bought, and so are you. Face right down to the practice room. Tension and fame's a career.
Cut your hair, coupe tes cheveux, c'était Pavement sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique. On parle d'énergie, c'est aussi un sujet très important, l'énergie bien sûr, parce qu'on aimerait avoir une source d'énergie pratique, bon marché, en plus qui ne produirait pas de carbone. C'est quelque chose dont tout le monde rêve et des chercheurs travaillent depuis longtemps à faire de ce rêve une réalité. Ils ont notamment placé leurs espoirs dans la fusion nucléaire. Et pour Maria Zuber, qui est vice-présidente pour la recherche au MIT, le fameux institut de technologie du Massachusetts, eh bien pour elle, la fusion nucléaire, celle qu'utilise notamment notre soleil pour briller, eh bien elle est même à bien des égards la source d'énergie propre par excellence. La quantité d'énergie qu'elle rendrait disponible à partir d'une ressource presque illimitée, c'est-à-dire l'eau, changerait réellement la donne. Génial. Seul bémol, eh bien, c'est qu'il reste toujours à trouver le moyen de pouvoir dompter cette énergie. Alors, que du côté des Bouches-du-Rhône, en France, la première des 6 pièces d'un gigantesque électroaimant vient d'être livrée sur le site du chantier ITER. C'est une installation destinée à démontrer justement que la fusion nucléaire peut devenir la source d'une énergie propre. Eh bien, il se pourrait bien qu'un tournant ait été pris dans la science et la technologie de la fusion nucléaire grâce à ce qui a été mis en place justement au MIT. En s'appuyant sur un électro-aimant supraconducteur à haute température, ils sont parvenus à produire un champ magnétique de 20 Tesla. C'est le plus intense des champs magnétiques jamais créés sur Terre à l'aide d'un tel dispositif. C'est environ 4 fois plus que ce qui est annoncé pour ITER, donc c'est vrai que c'était une annonce assez importante, et c'est justement ce qui manquait aux chercheurs pour espérer réussir à confiner un plasma au cœur d'un dispositif en forme un petit peu de donut, hein, cette espèce appareil circulaire un petit peu qui ressemble, c'est vrai, à un donut. On appelle ça, enfin, en tout cas les physiciens ne parlent pas de donut, ils vont parler de tokamak, et ça pourrait produire plus d'énergie qu'on en consommerait grâce justement à cette fusion nucléaire. En bref, sur le papier, c'est quand même assez prometteur. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est la fusion nucléaire. Il s'agit en fait d'abord de parvenir à chauffer un gaz pour essayer de former un plasma. Alors, quand je dis chauffer, c'est vraiment chauffer parce qu'on doit essayer d'atteindre plus de 100 millions de degrés Celsius. Donc, hein, on n'utilise pas un four classique, hein, pour ça. Et il y a au niveau de l'hydrogène deux isotopes qui existent et qui vont commencer à fusionner. C'est le deutérium et le tritium. Et donc, du coup, ils vont produire de l'hélium en fusionnant et ils vont produire des neutrons. Et c'est justement cette énergie des neutrons qui va permettre de produire de l'électricité. Sauf que pour maintenir le plasma et donc contenir les réactions de fusion nucléaire, il faut éviter que cette fusion rentre en contact avec les parois. Donc il faut vraiment que ça se mette bien au centre du dispositif, sinon c'est un peu la catastrophe. Je vous rappelle qu'on essaye d'atteindre 100 millions de degrés. Hein. Alors il faut essayer de réussir à confiner tout ça, et pour cela on utilise un champ magnétique. Alors, jusqu'alors, la plupart de ces donuts, de ces tokamaks, comptaient sur des électroaimants assez conventionnels, c'est-à-dire des électroaimants en cuivre. Le projet ITER, qui est du côté d'Aix-en-Provence, s'appuie sur des supraconducteurs à basse température, c'est-à-dire des températures d'environ moins 270 degrés. Et les travaux du MIT se concentrent à peu près sur des choses qui vont plutôt être à haute température. Alors, c'est haute température relative, bien sûr, parce qu'on est à moins 250. Mais pour eux, c'est de la haute température. On ne cherche pas à comprendre. On nous dit que c'est de la haute température. OK. En tout cas, ils ont construit un aimant unique en son genre. Et cet aimant, c'était véritablement l'élément qui manquait aux physiciens pour pouvoir construire enfin un système capable de produire de l'énergie par fusion nucléaire. On y est arrivé. On y est arrivé en plus avec des performances égales à celles justement qu'on utilisait déjà, mais dans des systèmes qui sont 40 fois plus petits. Donc on a réussi mieux en clair, avec un dispositif beaucoup plus optimal. La base physique d'un tel dispositif avait été posée l'année dernière dans une série d'articles scientifiques qui avaient été diffusés, et on avait confirmé ce prototype, en tout cas cette théorie, pardon, par simulation, sauf que maintenant, eh bien, que cet aimant existe dans le monde réel et qu'on n'est pas avec des ordinateurs en train de simuler quelque chose, eh bien, il va falloir essayer de construire des vrais prototypes, des vrais démonstrateurs, et essayer de mettre ça en place, mettre en service d'ici 3-4 ans apparemment. Alors, pour tester à petite échelle et seulement quelques secondes à la fois la faisabilité d'une centrale électrique à fusion nucléaire, eh bien, les ingénieurs envisagent un petit peu l'aboutissement de leurs travaux d'ici 2033. Donc une bonne dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt encore de voir cette technologie, parce qu'il reste encore de nombreux défis à relever, bien sûr. Mais en tout cas, on est sur l'idée de produire de l'électricité à l'échelle industrielle. C'est totalement prometteur, et si on y arrive, mais alors ça résout énormément de problèmes. Je vous rappelle, cette fusion nucléaire, c'est bon marché, c'est zéro carbone, c'est assez pratique, et on n'a pas de déchets nucléaires. C'est assez prometteur et on a énormément de travaux de recherche, notamment au niveau d'ITER près de Aix-en-Provence, pour essayer de parvenir à cette technologie qui, sur le papier, est hyper prometteuse, mais bon, qui est assez difficile à mettre en place d'un point de vue pratique, justement, d'où les travaux de recherche qui sont mis en place. Voilà, c'était Biotine sur l'antenne de Graphite. On a parlé beaucoup de sujets cette semaine. On a parlé d'énergie, on a parlé d'espace, on a parlé de réchauffement climatique, on a parlé de découverte. La découverte, c'est la thématique de la Fête de la Science cette année. C'est les 30 ans de la Fête de la Science. En 1991, le ministère de la Recherche avait souhaité faire un événement grand public qui s'appelait à l'époque Science en Fête, c'est-à-dire de pouvoir provoquer une rencontre entre la communauté scientifique et le grand public, et que ce dernier puisse un petit peu comprendre, découvrir et apprécier les travaux de recherche dans les laboratoires. Cet événement qui a 30 ans est maintenant un événement national, même francophone d'ailleurs. Et il avait démarré cet événement, notamment à Compiègne, à l'Université de technologie de Compiègne. C'est donc normal que nous soyons présents sur place la semaine prochaine, entre 14h et 16h, en direct sur l'antenne de Graphite, pour une émission Biotine spéciale Fête de la Science. Une superbe émission en direct où nous aurons pas mal d'invités, bien sûr, tout au long de cette émission de 2h. Rendez-vous donc samedi prochain à 14h sur l'antenne de Graphite. Je compte sur vous. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite sur graphite.net 94.9 ou sur graphite.net, je vais y arriver, que ce soit en direct ou en différé, parce que vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.